Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre, alléluia. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. » L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, que dire quand le Père Patrick a déjà commenté les textes que nous venons d'entendre? Que dire encore, qu'ajouter? Le silence ne serait-il pas meilleur? Celui qui nous rassemble en Église, en famille, autour de cet autel, c'est la parole, c'est le Verbe de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et comme Dieu, cette parole est inépuisable. Donc, après le commentaire du Père Patrick, je peux oser un mot. Et je ne prétends pas, après ce mot, avoir épuisé la parole qui est inépuisable jusqu'à la fin des temps. Je me réjouissais tout à l'heure, au début de cette Eucharistie, de ce que nous célébrions la vie. Jésus a déclaré qu'il était venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné, tout a été au service de la vie. Il s'est livré lui-même. Il s'est donné à la mort pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons jusque dans l'éternité. Travailler, non pas pour le pain qui se perd en ce monde, mais pour le pain qui se garde en vie éternelle. Chers amis, Dieu nous a créés pour la vie. Et comme le dit le livre de la sagesse, non pas pour une vie limitée, non pas pour une vie courte, mais pour une vie impérissable. Et chacun de nous, qu'il soit chrétien ou non, qu'il soit croyant ou non, chacun de nous porte en lui ce désir de vivre et de vivre sans fin. De vivre sans fin. Nous sommes des êtres finis, mais qui portent en eux le désir de l'infini. Et cela confirme cette parole de la sagesse que c'est pour l'éternité que Dieu nous a créés. Mais il se fait que nous posions sans cesse des actes suicidaires, que nous travaillions à notre propre mort, consciemment ou non. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des artisans de mort. Et nous travaillons à la genèse et à l'épanouissement d'une civilisation de mort. Ce n'est pas du pessimisme. Je pense que vous qui êtes là, vous en êtes conscient. L'Eucharistie, donc, que nous célébrons, est d'abord une demande de pardon pour tout ce que nous avons fait contre la vie, pour avoir donné la main à l'ennemi. Jésus a dit dans l'évangile de ce jour que c'est un ennemi qui a fait cela. Mais cet ennemi ne fait rien sans nous. Cet ennemi ne nous nuit pas sans notre complicité. Le démon, quelle que soit sa puissance, ne nous ravit pas notre vie sans notre consentement. Et souvent, par la ruse, comme ce fut le cas de nos premiers parents, Adam et Ève, par la ruse, et pour le découvrir, pour le démasquer, il faut être habité par l'Esprit de Dieu. Car on dit souvent en français, à malin, complétez s'il vous plaît, malin et demi. À malin, malin et demi. Dans l'écriture qui porte ce nom de malin. C'est le diable. L'ennemi. C'est le diable. Notre ennemi. L'ennemi de la vie. C'est lui qui porte ce nom. Le malin. Et pour vaincre le malin, il faut qu'il y ait un malin et demi. Et celui qui est plus malin que le malin, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Cela est clair dans cette parabole où le Christ disait que quand un homme fort, bien équipé, garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais quand il y a un plus fort qui arrive, il lui arrache son arsenal de guerre ou bien ses armes et dilapide ses biens. Le plus fort, c'est Dieu. Aucun de nous, quelles que soient ses qualités, ses capacités, aucun de nous, aucun humain n'est aussi fort que Satan. Et celui qui seul est plus fort, c'est Dieu. Et l'homme habité par l'Esprit de Dieu peut vaincre Satan. Ne pas vouloir reconnaître la réalité de Satan est anti-évangélique et anti-chrétien. Je ne dis pas de donner, enfin de croire à Satan et de penser qu'il est inéluctable et invincible. Mais il faut reconnaître que Satan est une réalité. Une réalité vivante et agissante contre le bonheur et contre la béatitude du monde. Quand on va chez le médecin, la première chose, c'est de travailler à diagnostiquer le mal. Et tant que le diagnostic n'est pas posé, tout traitement risque de passer à côté. J'avais une petite amie quand j'étais un séminariste. On était de la même promotion, moi au séminaire, elle au collège. Elle avait fait sa maîtrise en sociologie et elle a eu un premier... sa fille est née et 3 mois après elle mourait. Elle souffrait d'un mal qu'on n'avait pas fini de diagnostiquer avant qu'elle ne meure. Quand on ne sait pas ce dont vous souffrez, on peut faire d'autres traitements. Et pendant ce temps, le mal avance et fait plus de rage, fait plus de dégâts, jusqu'au dernier dégât qu'est la mort. Aujourd'hui, il est bon que nous reconnaissions en toute vérité que le démon existe. Vous le savez que sa grande victoire au 19e siècle, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et malheureusement, certains encore continuent de ne pas y croire. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de reconnaître que c'est ainsi. Et que ce démon, cela l'arrange qu'on ne le reconnaisse pas. Cela l'arrange. Donc, reconnaître son ennemi, c'est déjà le début de la victoire. Au moins, vous saurez comment vous allez cibler désormais votre défense. Vous n'allez pas vous tromper d'ennemi. Mais quand c'est le démon, mais que l'on méconnaît et à qui on donne d'autres noms, d'autres appellations, d'autres dénominations, mais ça l'arrange. Ça l'arrange. La vérité du démon n'est pas donc à nier. Il existe. Et l'évangile de ce jour nous le rappelle. Il existe comme entité propre. Non pas comme mal moral personnifié, non. Le démon existe. Et il est l'ennemi de nos vies, l'ennemi de la vie. Et tous ceux qui travaillent contre la vie se font complices de l'ennemi. Complices de l'ennemi. Il a dit dans la première lecture de ce jour que Dieu est Dieu. Dès le début déjà, on dit, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses, et particulièrement de l'homme. Dieu, Jésus a dit que si les moineaux, vous connaissez les moineaux du monde, pas un seul, rien n'arrive à un d'entre eux sans que votre Père des cieux ne le sache. Des moineaux, il y en a des milliards. Il y en a beaucoup. Mais rien n'arrive à aucun d'entre eux sans que votre Père le sache. Mais vous, est-ce que vous ne valez pas plus que tous les moineaux du monde? Dieu a créé l'homme comme la fine fleur de toute la création. Comme la fine fleur de toute la création. Nous sommes au sommet de la création. Et quand on voit l'histoire, quand on retourne à l'histoire de la création, Dieu n'a pas créé l'homme de la même façon qu'il a créé les autres éléments du monde. Il nous a créés d'une façon spéciale. Il a mis en nous son souffle. Et la Genèse dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors Dieu en nous, Dieu avec nous, il n'y a que lui avec nous pour sauver ce qui est de lui. Sans lui, ne sommes capables de rien. Et que notre orgueil, nos prétentions ne nous conduisent pas à nous détourner de Dieu pour nous focaliser sur nous-mêmes. Nous courons vers notre propre mort. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ambulants, mais qui sont en réalité des cadavres ambulants. Beaucoup de gens qui se croient vivants, mais qui en réalité sont des cadavres. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les meut. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les inspire. Oui. Demandons au Seigneur pardon pour avoir souvent donné la main à l'ennemi contre notre propre bonheur, contre le bonheur de nos frères et sœurs, contre la vie du monde. Aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Tous en danger. Et nous portons ce souci du monde entier, le souci de la résurrection de l'homme. Le Seigneur, notre Dieu, est tranquille, imperturbable. Il est serein. Car la victoire lui appartient. Le mal s'agite. Le mal se presse de faire le plus grand nombre de dégâts avant que son heure ne sonne. Mais Dieu est patient. Notre Dieu est patient. Mais dans patient, si je me réfère à son étymologie, à l'étymologie du mot patient, il est la souffrance. Patior en latin, c'est souffrir. Et en français, les malades sont appelés des patients, ceux qui souffrent. Et quand on est patient, justement, il y a une souffrance. Au cœur de la patience. Quand vous attendez quelqu'un, que vous patientez, il a eu souffrance. Je me rappelle quand j'étais à Fontenay-sous-Bois, dans la banlieue parisienne, comme prêtre étudiant, j'étais de tour pour l'accueil. Pour l'accueil, j'ai reçu le coup de fil d'un Français que je n'ai jamais rencontré, que je ne connaissais pas. Il était dans l'attente, il attendait son tour de rencontrer le médecin et il brûlait d'impatience. Il a récité le rosaire, ça n'a pas suffi, il a fait ceci, il a fait cela, mais ça n'allait pas. Alors là, il a appelé quelqu'un à la paroisse pour l'aider à meubler l'attente. Donc c'est ainsi qu'il m'a eu au bout du fil. Bon, on a parlé de tout et de rien. Au moins, ça l'a apaisé un peu. Parce que c'est pour dire que la patience vraiment fait souffrir. Et il y en a qui ont perdu la vie sur le volant de leur véhicule parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre dans le bouchon. Et si notre Dieu est patient, c'est une patience qui fait souffrir, qui le fait souffrir aussi. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants aux prises avec le mal et surtout être desservis par le mal ambiant. S'il dit d'attendre jusqu'à la fin des temps, d'attendre jusqu'à la boisson, c'est toujours au service du blé, du bon grain. car en voulant moissonner prématurément, on risque de faire, enfin, de faire du mal au bon grain. On risque de faire du mal au bon grain. Car la patience, quelque part, est payante. Dieu est très patient parce que il sait ce qu'il a mis dans l'homme. Et il sait aussi que l'homme a la capacité, avec sa grâce, de vaincre le mal et d'accomplir sa vocation et de s'accomplir lui-même. Si Dieu n'était pas patient, un Saul ne serait pas devenu Paul. Si Dieu n'était pas patient, Marie-Madeleine, cette pécheresse, ne serait pas devenue apôtre des apôtres, ne serait pas devenue ce que chacun de nous sait d'elle. Si Dieu n'était pas patient, peut-être que nous ne serions pas ici aujourd'hui. Chacun connaît un peu son histoire. Chacun connaît son parcours. La patience de Dieu nous a ramenés à lui. Le père Patrick m'a raconté, je pense hier, ou bien aujourd'hui même, comment, enfin, quel était son parcours vers le sacerdoce. Et Dieu, c'est Dieu qui est le maître de la vocation. Mais Dieu a usé de patience avec ses instruments, ceux qu'il a mis sur le chemin du Père. Et au bout du rouleau, la volonté de Dieu a triomphé. La volonté de Dieu a triomphé. S'il n'y avait pas cette patience de Dieu, curé d'Ars ne serait pas devenu curé d'Ars. Jean-Marie Vianney ne serait pas devenu curé d'Ars. S'il n'y avait pas la patience de Dieu, Augustin ne serait pas devenu évêque d'Hippone. Vous connaissez l'histoire d'Augustin, de Saint-Augustin. C'était un garçon de mœurs dépravé. Ce qui faisait couler des larmes à sa mère, Sainte Monique. Sainte Monique qui pleurait jour et nuit pour la conversion de son fils. Cette conversion advint. Et ce garçon de mauvaise vie, très intelligent, mais de très mauvaise vie, ce garçon est devenu aujourd'hui l'une des étoiles que nous contemplons dans le ciel de la sainteté. Au point qu'aujourd'hui, pour devenir prêtre, il faut avoir étudié Saint-Augustin. C'est l'un des incontournables en théologie, en philosophie et théologie, bien sûr. Alors, chers amis, nous sommes les fruits de la patience de Dieu, et cela peut s'appeler la miséricorde. La miséricorde. Le Seigneur n'attend pas pour, enfin, pour rien ou bien pour nous nuire. Non, l'attente de Dieu est en vue du bien, du triomphe du bien, car il y a quelque chose de bien en nous, en chacun de nous, même dans le mécréant, même dans l'assassin, même dans l'homme, le pire des humains, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon qui attend peut-être l'occasion d'éclore et de s'épanouir à la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de son peuple. Oui, on dit que dans la première lecture, il est dit que Dieu est, on dit que Dieu seul est humain, quelque chose comme ça, non? Oui, que Dieu Dieu est humain. C'est quand je lisais, c'est ce que j'ai compris. Vous voyez? Le juste doit être humain. Voilà, le juste. Oui. Tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Doit être humain. Et cela m'amène à vous faire une confidence. Nous étions en session de prêtres diocésains, enfin, tous les prêtres de mon diocèse étaient rassemblés pour une session de fin d'année pastorale. Et l'un de nous avait pris la parole en disant, chers confrères, soyons humains. Soyons humains. Et quand je me réfère à cette intervention de mon confrère, je dis que chacun de nous devait partir de cette session, enfin, les yeux larmoyants. Car qu'on demande à des prêtres d'être humains, mais c'est très grave. Ça veut dire que, mais on n'a pas encore assumé la première étape de la, enfin, des conditions. Le sacerdoce ne vient pas se greffer sur du néant. Le sacerdoce suppose l'humanité. La grâce suppose la nature, dit-on. Et il a un soubassement, incontournable. Le sacerdoce ne vient pas se greffer sur n'importe quoi. Il faut avoir un soubassement bien stable, bien assuré. Souvent, quand on parle de certaines personnes, les gens disent « Non, c'est depuis la maison que la chose est mal partie. » Le séminaire fait des efforts, le séminaire essaie de former en nous des prêtres. Mais avant le séminaire, il a eu la maison. Avant le séminaire, il a eu la famille. Le séminaire ne nous prend pas à l'âge zéro. Donc, ce qui est, nous savons, selon les psychologues, que ce qui est déjà déposé dans l'enfant les cinq premières années, c'est ça qui le suit et le poursuit jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'âge de la vieillesse. C'est pourquoi ils disent que l'enfant est le père de l'adulte. Alors donc, que nous soyons humains, voilà le point de départ. Le juste doit être humain. Et aujourd'hui, vous connaissez un peu de l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, il n'y a pas plus humain que Dieu lui-même. Il n'y a pas plus humain que Dieu lui-même. Et chacun de nous, en essayant de se diviniser, puisque nous sommes quand même faits pour ça, à Noël, on dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En nous divinisant avec la grâce de Dieu, la grâce de sa miséricorde, nous nous humanisons. Nous nous humanisons parce que, à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a créés. Donc, en nous divinisant, nous nous humanisons. Et quand nous chassons Dieu de l'horizon de nos vies et de la vie de nos sociétés, nous nous diabolisons. Et c'est ce qui arrive de plus en plus. Quand Dieu est poursuivi jusqu'au dernier retranchement, l'homme ne fait que déchoir. L'homme descend dans les enfers. L'homme descend au Séol. Et nous travaillons, nous prions pour la résurrection, pour le relèvement de l'homme. Et Saint Paul nous dit, dans la deuxième lecture de ce jour, que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est cet Esprit seul qui peut nous aider. Confions donc notre esprit. Confions nos esprits à l'Esprit Saint, afin qu'il nous inspire la vraie prière, celle qui sauve, celle qui ressuscite pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre béatitude éternelle. Amen.
Amen. Amen.